Vous êtes sur RTL.
Bonsoir François.
Bonsoir Caroline, je suis heureux de vous entendre.
Eh ben écoutez, moi aussi François.
Oui, je vous avais appelé il y a quelques temps et puis pour vous expliquer que je vivais une situation assez compliquée parce que mon épouse avait décidé de voulait qu'on se sépare après 32 ans de vie commune et puis je n'avais plus le contact avec mes enfants et ça m'avait fait énormément de bien vous aviez mis le doigt sur comment expliquer ça, vous m'aviez bien cerné dans ce que je vous ai dit, ça m'avait fait un bien énorme quoi. À tel point que j'étais très ému le soir-là, bon comme oui. Ce soir encore, mais j'ai beaucoup pleuré après l'entretien, mais j'étais bien, et puis le lendemain, j'ai ressenti comme un grand vide parce que j'avais eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui me, enfin j'étais tellement seul, je suis encore assez seul, mais j'ai une impression de vide très importante. Oui. Je pense que vous pouvez le comprendre ça parce que vous aviez parlé de, j'avais évoqué un petit peu mon passé, un petit peu familial, qui avait été avec mon frère trisomique et puis des je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui, je me souviens de vous.
Et donc, comment expliquer ?
Vous êtes très malheureux, en fait, de cette... ça vous est tombé dessus, au fond,
cette rupture,
cette
oui.
Rupture, c'était... Oui. C'était au moment où elle prenait sa retraite ?
Exactement.
C'est vous ou elle ?
Oui. C'est elle qui prend sa retraite. Enfin, qui l'a prise maintenant. Elle est en retraite.
Oui, oui.
Et puis, ce qui m'avait un petit peu fait beaucoup de mal, c'est que j'avais passé 4-5 jours à l'hôpital, quoi, à la suite de mes difficultés. J'avais accepté d'aller aux urgences de l'hôpital. Et puis, à mon retour, il s'est pas passé. Enfin, moi, j'étais déjà un petit peu dans un état un petit peu dépressif depuis plusieurs années. Et donc, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est qu'à peine 2 jours, j'étais rentré. Elle m'avait posé la question. Alors, t'as réfléchi à propos du divorce, quoi. Enfin, et ce mot-là, ça a été comme un coup de poignard, quoi. Parce que même maintenant, j'ai du mal à supporter ce mot-là. Il y a quelque temps, vous avez fait une émission sur les ruptures, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça.
De thème dans l'émission, vous savez. C'est les auditeurs qui appellent pour parler d'eux. Mais oui, la rupture est une problématique qui revient souvent dans l'émission.
Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, à cause du confinement ou de ces choses-là, donc ça a traîné et nous avons vécu sous le même toit. Plus dans la même chambre, alors qu'au début elle disait que ça ne la dérangeait pas du tout qu'on dorme ensemble, mais assez rapidement elle a souhaité que je fasse que j'aille dormir ailleurs, et ailleurs dans la maison,
oui, je comprends bien.
Mais là, elle est partie. Elle va rentrer dans quelques jours, mais elle est partie une bonne dizaine de jours. Et chaque fois que, elle m'a envoyé un SMS en me disant qu'elle allait rentrer dimanche. Donc, et après, elle me disait, j'ai consulté un cabinet d'avocats pour entamer la procédure de divorce, quoi. Donc. En même temps, moi, c'était devenu invivable de se jouer un petit peu la comédie, quoi. C'est-à-dire dans ma dépression, je avec les médicaments, je traînais au lit très tard, jusque dans presque le milieu de l'après-midi, donc ça c'est du temps tout seul. Et puis le soir, on soupait quand même ensemble, donc mais on échangeait des banalités, on a même réussi à des fois plaisanter un petit peu sur des choses qu'on voyait à la télévision, mais c'est une ambiance,
pesante.
Oh, c'est plus que pesant, c'est, je veux dire, c'est une torture mentale, je trouve, et puis je comprends que ça peut être le cas de son côté, parce que si elle a décidé ça, c'est que vraiment le c'est pas du comment du que c'est vraiment ce qu'elle veut, quoi. Et ce qui me surprenait un petit peu, c'est que le psy que je vois régulièrement me a plusieurs fois dit, mais est-ce que vous êtes sûr, quelque, enfin, m'a mis un peu le doute
sur sa motivation de divorcer, quoi.
Voilà, et en disant, est-ce que vous lui avez demandé si elle veut, enfin tout ça, mais je dis, mais j'en suis sûr, ça a été dit forcément, je me souviens plus, mais et puis là, quand il y a deux jours j'ai eu ce message, j'ai revu le psy, donc je l'ai revu, on est jeudi, mais je l'ai revu aujourd'hui, donc j'ai dit, vous voyez, ce que je pensais il y a déjà plusieurs mois, c'était bon, et là, donc je vais, c'est, je pense que je suis arrivé à un moment où j'ai accepté la séparation, donc il faut que j'ai fait des démarches de recherche d'appartement, tout ça. Enfin, c'est pas évident du tout, parce que j'ai beaucoup de choses à moi à la maison, et je vous avais dit, je sais pas si vous pouvez vous en souvenir, mais que j'avais tenu à garder énormément d'affaires de mes parents, de mes oncles et tantes, de mes grands-parents, et ce qui fait que la maison est envahie de choses, et je pense que quand elle me disait que je l'étouffais, je pense qu'il y avait une part de tout mon passé à moi qui était trop difficile à...
Oui, au fond, toutes ces affaires que vous conserviez, dont vous ne pouvez pas vous séparer, enfin, il y avait quelque chose de douloureux là, à ce niveau-là. Comment vous l'avez vécu cette semaine, justement, où elle n'était pas là? Parce que vous parlez de cette cohabitation qui est une torture, me dites-vous. Est-ce que vous êtes senti un peu mieux? Tout est relatif, alors, mais dans le fait qu'elle n'était pas là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce...
Il n'y a pas la tension.
Oui. Et si vous vouliez dormir, après tout, parce que bon, là, c'est au moins quand vous dormez, ben, vous ne pensez pas, c'est aussi un refuge. Bon. Vous pouvez vivre à votre rythme.
Je voulais dire ce que vous venez de dire à l'instant. Par exemple, moi, j'avais demandé à mon psy d'être hospitalisé. Oui. Donc, il faut qu'il fasse une lettre. Il y a on est à côté d'une grande ville, donc il y a deux, trois endroits. Mais on reçoit une réponse qu'une quinzaine de jours après, s'il y a de la place. Et puis, en général, c'est des hospitalisations qui sont prévu pour un mois à peu près au départ, quoi. Et puis,
pourquoi vous aviez demandé à être hospitalisé? Parce que vous redoutiez de vous retrouver seul?
Parce que j'avais trop mal, et puis que je ne pouvais pas ce que j'ai constaté c'est tous ces mois qui sont passés, c'est que elle refuse d'accorder, enfin poliment, elle écoute des choses que je dis, mais elle veut pas du tout montrer que je représente un peu quelque chose pour elle, quoi. Je veux dire, elle veut pas s'attendrir sur mon sort. Je sais pas comment vous expliquer
c'est
ça.
C'est compliqué au moment où elle prend la décision de se séparer. En même temps, même si elle ne peut pas être indifférente à votre état, elle ne peut pas non plus, comme vous dites, s'occuper de vous. Comme elle l'aurait fait si vous étiez encore ensemble. Ce qui ne veut pas dire que... Enfin, vous aimeriez, vous, et elle peut-être... Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous me dites quand même que, avant même cette séparation, François, il y avait, depuis des années, vous étiez dans un état un peu dépressif.
Oui.
J'ai bien compris, c'est ça. Oui.
Oui.
Est-ce
oui,
que vous savez ce qui a pu être à l'origine de cette dépression, ou pas?
Alors, là, pour répondre directement à votre question, je dirais que j'ai connu une période de ma vie très difficile jusqu'à ce que je rencontre, enfin très difficile, entendons-nous, pas mal de petits traumatismes par rapport à la situation familiale de avec mes parents, avec mon frère, puis avec mes autres frères et sœurs que je ne vois plus du tout. Et quand j'ai connu ma femme et quand les enfants sont arrivés, ça a été la période du bonheur, si vous voulez. J'avais d'ailleurs une amie plus âgée que moi, et j'ai toujours eu beaucoup d'amis nettement plus âgés que moi, même des personnes âgées que j'ai suivies dans les maisons de retraite et que j'ai vues partir. Enfin, cette amie me disait, ah François, vous savez pas, c'est le plus beau. C'est quand on était en visite chez elle avec les enfants quand ils étaient petits. C'est votre plus beau temps, François. Profitez-en, ça passe vite, etc.
Et qu'est-ce qui a déclenché alors à un moment il y a eu une rupture, un basculement dans votre vie? Qui explique cet épisode dépressif?
Eh bien, je dirais que ça a été à partir du moment où j'ai été mis en invalidité pour mon travail.
D'accord.
Parce que
vous n'étiez pas bien déjà.
Oui, puis puis se sont ajoutés des problèmes, problèmes à la tendance, j'ai dû faire au moins deux ou trois bonnes dépressions dans ma vie jusqu'à dès l'âge de 16 ans, de 15-16 ans.
Oui, c'est ça, il y a un peu des antécédents. Est-ce que, quand vous me dites que vous avez demandé à votre psy d'être hospitalisé, mais l'avez-vous été hospitalisé?
Non, je ne l'ai pas été.
Pourquoi?
Ce que je voulais dire, c'est que lui m'a dit, moi je vois pas, je pense que c'est pas bien pour vous, parce qu'il m'a dit c'est une manière d'aller vous réfugier, de pas penser, etc.
Alors que lui, parfois on a besoin de ça.
Ouais.
Enfin, je comprends ça, la démarche qui est de dire d'essayer de vous maintenir dans votre quotidien, mais parfois, l'hospitalisation peut être utile quand on sent vraiment que l'on s'enfonce, que l'on va très mal, que l'on sombre dans un désespoir, voire que l'on a des idées noires. Et l'hospitalisation peut être à un moment une bulle où on s'occupe de vous, où à ce moment-là on met en place un nouveau traitement, où on augmente des doses, où le temps nécessaire à ce que la personne se sente mieux.
Oui.
Donc c'est pour ça que je vous demandais, finalement, c'est pas anodin de demander une hospitalisation.
Oui.
C'était quand ça?
Oh ben c'était déjà même quand je vous avais, c'est-à-dire que moi je vous avais appelé au mois de septembre, mais c'était déjà avant. C'était dans cette période-là.
Aujourd'hui. Comment vous sentez-vous par rapport justement à cet état dépressif? Est-ce que reste stable? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous vous sentez plus mal? Est-ce que par moments vous avez des idées noires ou pas?
Complètement. Je vis avec. Je suis obnubilé par l'idée du suicide. Quoi, je veux dire, je pense
obnubilé.
À ça. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est installé en moi et donc j'avais même pensé quand elle va rentrer, je serai plus là, quoi. Je veux dire parce que j'ai un petit peu agi ces jours-ci en faisant du rangement, en faisant des démarches pour de recherche immobilière que j'avais déjà fait, en faisant des... Donc si vous voulez, la chose qui fait qui me fait aller mieux, c'est quand je peux agir et ne plus penser, quoi. Dès l'instant où je commence à penser, bon, par
vous
exemple, j'étais mal il y a deux jours. J'avais trouvé un endroit où, d'ailleurs je vais y aller la semaine prochaine, j'avais trouvé un endroit assez loin de chez moi, 350 presque 400 km de chez moi, mais au bord de la mer, au bord de la Manche, quoi. Je veux dire, la mer me fait un bien fou. Mm-hmm. Un endroit qu'on connaît bien, et donc j'étais un peu remonté et tout, et puis le matin quand je me réveille, pof.
Vous êtes très mal le matin.
très très, très mal. Quoi.
Oui, mais ça, c'est dans la dépression, c'est le matin qu'on est le plus mal.
Oui.
Généralement, l'état s'améliore en fin de journée.
Oui.
Un peu. L'humeur remonte un petit peu. Le matin, on a l'impression d'être au bout de sa vie et qu'en tout cas, on n'arrivera pas à passer la journée.
Oui, c'est ça.
Ça peut
c'est
arriver
ça.
À ce point-là. Hein. Et ça, c'est caractéristique de la dépression.
Oui.
Alors, quand vous me dites que quand je vous demandais si vous aviez des idées noires, vous me dites que oui, vous êtes obnubilé par cette idée-là, et même vous me dites à penser que vous parfois vous dites je serai plus là quand elle rentrera.
Oui.
Ça veut dire que vous pensez concrètement à des choses.
Oui, quand même. Et là, si je suis un petit peu différent ce soir, c'est parce que j'ai pris un rendez-vous avec une personne qui doit me faire visiter des appartements, là, comme je disais, près de la mer. Et puis,
vous aimeriez, vivre là. Ça serait pour vous installer.
Mais oui. Ça, je pense que j'y arriverai, mais en même temps, je peux très bien demain matin dire non.
Oui, je comprends. J'entends ça. Déjà, il y a déjà des envies qui vous traversent, des projections dans l'avenir, mais tout ça reste très fragile. Effectivement, là, vous m'en parlez et c'est bien. Il faut garder ça dans un coin de votre tête parce que vous me dites, la mer vous fait du bien. Et c'est important dans des moments comme ça de s'accrocher à ça peut être des lieux où on a été bien, des endroits vous c'est la mer qui vous apaise, un endroit où vous pouvez envisager à nouveau l'avenir, mais j'entends très bien aussi que demain matin vous pouvez vous lever et à nouveau être obnubilé par l'envie d'en finir. Donc est-ce que vous en parlez de ça à votre psy? Est-ce que vous lui avez dit ça? Comme vous me le dites là.
Oui, je lui dis forcément parce que, comme, plus il a attrapé la Covid, donc il a été arrêté pendant 15 jours, donc...
Vous ne l'avez pas vu là? Si, vous me dites que vous l'avez vu aujourd'hui.
Mais si, mais il a repris de cette semaine, quoi.
D'accord, donc pendant 15 jours, vous ne l'avez pas vu.
Je n'ai pas vu, mais je veux dire encore tout à l'heure, quand je l'ai vu, quand je lui ai dit que je serais probablement absent, qu'on me donnait rendez-vous pour dans une semaine, alors qu'il essaye, je vois qu'il fait le maximum pour me prendre deux fois par semaine, et quand il m'a dit, à telle date, c'était un jeudi, et puis je lui ai dit, espérons, quoi. Je veux dire, donc on en parle très... Je lui répète souvent, quoi, hein, mais je sais pas, je pense peut-être que le fait que ma femme m'ait mis ce message-là, c'est pas agressif, hein. Mais je pense que j'ai fini par me dire que... par penser qu'il faut que je l'accepte et que c'est peut-être le... Et puis peut-être que si ça prend un peu de temps, je sais pas, encore un mois et demi pour qu'on soit ensemble à dormir sous le même toit, si elle sait qu'il y a une échéance où elle va... Parce que je la sens complètement... j'ai l'impression qu'elle rumine, quoi. Je veux dire, elle passe des longs moments sur son téléphone.
Est-ce que vous appréhendez son retour?
Moins, parce que j'ai réussi à lui envoyer, quand elle m'a envoyé le message, là, j'ai dit, tiens, je vais pas y répondre tout de suite pour pas avoir l'impression d'être,
d'être dans l'attente tout de suite, je comprends. Bon.
Et peut-être d'être à ses ordres, donc j'ai envoyé un message le soir, en lui disant que je m'excusais de me manifester tardivement et que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, puis je lui ai dit, on va bien y arriver, etc.
Donc, par rapport à votre traitement, excusez-moi, je vous interromps, mais je pense à une chose, j'ai peur d'oublier. Votre traitement, vous le prenez depuis, c'est le même que vous prenez depuis le début?
Depuis le début, oui.
Votre traitement d'antidépresseur?
Oui, c'est un antidépresseur, c'est le premier antidépresseur qui me fait cet effet-là. C'est un antidépresseur qui me fait dormir énormément, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut citer des noms. Non,
non, mais j'en ai pas. Peu importe. C'est... Vous, il n'a pas changé, pensé à modifier votre traitement, votre psychiatre?
Si, il en a rajouté un deuxième. Si vous me faites penser à ça, c'est que au bout d'un certain temps, il en a rajouté un deuxième, que parce que celui-là qui me fait dormir, je le prends le soir avec.
C'est bien.
Et il en a rajouté.
Il est apaisant. Il y a un peu d'anxiolytique aussi avec, quoi. Il y a quelque chose.
Oui. Oui. Puis il y a deux comprimés alors que la posologie c'est un. Et puis.
Qu'est-ce qu'il a rajouté?
Et il a rajouté un quelque chose le matin, un autre antidépresseur. Et
un peu pour vous stimuler.
Et j'ai tout de suite senti que ce deuxième antidépresseur me mettait un peu de clarté dans l'esprit.
C'est bien. Oui. Donc ça, c'est une bonne chose. François, pour le moment, c'est un jour après l'autre. Il faut vous dire si il y a un moment, parce que vous allez finir par aller mieux. Ce qui est compliqué là, c'est cette période que vous traversez, cette cohabitation, cette peur, ce vide au fond, cette peur de l'inconnu. Et puis il y a l'idée de dire finalement, bon, puisque on s'oriente, vous orientez vers la séparation, d'aller vivre au fond dans un endroit au bord de la mer, où vous vous sentiriez bien. Donc, il y a des moments comme ça où, à nouveau, vous pouvez un peu anticiper, mais tout ça reste très fragile. Il faut que vous sachiez, François, si à un moment, vous vous levez un matin et que vous vous sentez envahi, obnubilé, comme vous dites, par l'idée d'en finir, vous pouvez appeler les pompiers et il y a les urgences aussi à l'hôpital. Hein. Je vous dis ça parce que parfois, dans des états comme ça de dépression assez profonde, ça peut prendre du temps. Il y a des moments où on est mieux, et puis il y a des moments où la souffrance, elle peut tout envahir. Au point, parfois, de ne plus avoir l'esprit clair, comme vous dites, et de ne plus avoir que cette idée-là, au fond, pour moins souffrir. D'en finir avec sa vie. Alors que c'est avec la souffrance qu'il faut en finir. Et que dans ces cas-là, l'hospitalisation, elle peut être une solution. Et dans ce cas-là, on ne vous dira pas d'attendre, François. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? C'est-à-dire que aux urgences, les pompiers viennent vous chercher, aux urgences, on vous trouvera un lit. Le temps que vous vous sentiez mieux et que cette vague éventuelle de souffrance qui vous submerge passe, parce que ça finit par passer.
Oui.
Il faut que vous ayez ça en tête.
Mais la question pour moi, c'est d'accepter d'accepter la séparation et de me voir,
de me voir
seul, quoi. Je veux dire, parce que
ça vous fait peur, ça vous angoisse terriblement. Peur. Et c'est pour ça que là aussi, votre psy, si vous l'appelez. Alors, à ces heures de cabinet, et je vous dis, s'il n'est pas là à ces heures de cabinet, il y a les urgences. Et si vraiment vous l'appeliez en disant là, j'y arrive plus et j'ai peur de ce que je pourrais faire, croyez-moi, il vous trouvera une solution pour l'hospitalisation. Parce que dans ces cas-là, dans les urgences, il y a les urgences pour la santé physique, où il y a une urgence vitale, mais il y a aussi des urgences pour quand on souffre énormément psychiquement. Bon. Donc, oui, j'entends que cette perspective vous angoisse, qu'il y a cet accompagnement, et vous allez vous commencez un peu à vous préparer, puisque quand on s'était parlé, ça vous faisait tellement peur que vous pouviez même pas envisager un après. Aujourd'hui, l'après commence à se dessiner avec cette idée de vivre dans un endroit, d'être au bord de la mer, trouver un lieu où vous vous sentez bien. Et c'est important de vous accrocher à ça aussi. Vous voyez ? Et puis, avant cela, donc vous allez visiter des lieux. Et puis, il y a peut-être aussi, quand vous vous sentirez encore un petit peu mieux, la perspective d'aller, je ne sais pas, alors tout le monde n'aime pas les thalassos, mais c'est au bord de la mer et dans un lieu où on s'occupe de vous, finalement. Où vous avez un planning, où on est là pour vous chouchouter. Ça peut être aussi un entre-deux. Quand vous irez un peu mieux. Vous êtes là ?
Oui, non, je vous écoute. J'essayais de savoir comment j'allais pouvoir vous dire ce que je vous dis là maintenant, c'est que quand j'ai été hospitalisé, c'était au mois de mai, hein, et donc j'ai été aux urgences et puis j'ai été dans l'unité psychiatrique de l'hôpital, quoi. Oui. Et là, au bout de 4-5 jours, donc j'ai pu sortir. Ça me faisait peur parce que ma femme avait signé un papier pour que je reste à l'hôpital, mais la médecin que j'ai vue, elle m'a dit vous n'avez rien. Enfin, je résume, rien à faire là, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais par contre, je suis retourné 2-3 fois dans ce service-là pour demander à voir le médecin qui m'a vu. Et je veux dire par là que c'est pas si simple que ça et peut-être pas pareil partout dans toute la France parce que je lui ai bien demandé.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce médecin?
Ben, j'ai 2 fois je l'ai pas vu, donc j'ai vu un autre médecin et le médecin m'a dit, enfin j'ai dit au médecin que l'autre avait dit que si j'avais la moindre, qu'ils étaient là pour m'accueillir et tout, qu'il y avait pas de problème.
Bien
que,
sûr.
Et puis ben en fait quand je l'ai revue ça n'allait pas bien et elle a pas vu que ça n'allait pas bien.
Faut le dire François, oui je c'est ouais. Vrai que vous savez on croit parfois que les psychiatres voient ce qui se passe dans la tête. Ils entendent ce qu'on leur dit mais parfois on va tellement mal qu'on n'arrive plus à dire. Et oui. Et parfois on va mal mais on peut donner le change. Et c'est pour ça que je vous en parle. Je vous dis, François, vraiment, quel que soit le lieu en France, si une personne est dans des idées, va tellement mal et dans un tel désespoir qu'elle pense en finir, si vous appelez les pompiers, ils vous amènent aux urgences, et là, si vous dites « j'ai besoin d'être hospitalisé parce que là, j'y arrive plus », j'y arrive plus et j'ai peur d'avoir un geste fatal. On va vous trouver un lit, François. Croyez-moi. Alors, j'entends que vous oscillez entre des moments où vous pouvez vous projeter, vous pouvez envisager la séparation, et puis il y a des moments où la souffrance vous rattrape et la peur. Et c'est le temps que ça passe, parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Mais il faut parfois passer des caps. Et pour nous aider à passer des caps, l'hospitalisation peut être un lieu, voyez, adapté et approprié. Ayez-le en tête, ça. Ayez-le en tête, voilà, que c'est possible. Et ne vous dites pas, oh non, on ne me prendra pas, et puis de toute façon, il n'y a pas de place. C'est juste ce que je voulais vous dire. Simplement... Bon, en attendant, il faut, je vous dis, continuer comme vous le faites et savoir que vous avez ce recours-là, parce que j'entends évidemment que c'est quelque chose qui vous fait beaucoup, beaucoup souffrir. Donc, donnez-vous ce temps-là, d'accord ?
Je vous remercie une fois de plus. Ça fait du bien qu'on vous parle comme ça, comme vous le faites, de même que j'ai eu tout à l'heure Paul et Caroline là, et j'ai dit notamment à Paul que j'avais apprécié sa façon la dernière fois de, il est tonique, il est rassurant,
oui.
Et voilà quoi, mais je voulais dire aussi que dans ma vie, ma vie est marquée d'une quantité de, ben, comme pour beaucoup de gens sans doute, mais de points de, des petits points qui se raccrochent les uns aux autres, quoi, soit par rapport à la vie d'autres personnes ou des lieux ou des choses comme ça. Et je sais pas si je vous pose une question en vous demandant, par exemple, est-ce que ça vous dit quelque chose, le livre et le film Le Scaphandre et le Papillon?
Bien sûr. Alors, je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre, oui. Oui.
Donc, là où je vais aller, je suis attiré, je pense, chaque fois, parce que je suis croyant, donc j'ai souvent prié pour lui, quoi, parce que c'était tellement émouvant. Et puis, je suis attaché aussi à l'église
de Berck,
oui, c'est ça. Oui,
c'est là où vous songez à aller?
Oui, 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 oui. Et il y a Notre-Dame des Sables, là, qui est cette église où dans le film, on voit l'image. Et chaque fois que je vais à Berck, je vais toujours me recueillir dans cette église. Et puis, Il y a des choses comme ça, plein de choses dans ma vie que j'ai pas pu. Mais de toute façon, ça serait un petit peu peut-être prétentieux de dire bon, j'ai pensé à ça, 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 mais j'ai la personne, je vais pas la citer, mais de dans le scaphandre, le papillon qui est décédé.
Si,
donc
vous pouvez, puisqu'il a écrit un livre. Jean-Dominique Bobby,
je crois.
Oui, enfin, oui. Et ce livre est poignant, et l'histoire de cet homme. Pourquoi vous me parlez de lui? Parce que c'est un lieu, c'est sa Berck vous évoque aussi, c'est un lieu que vous aimez. Il faut vous raccrocher à des points comme ça. Voyez, le noter, peut-être, dire, bon. Mais encore une fois, vous êtes, il y a des choses comme ça auxquelles vous pouvez vous raccrocher. Et puis, si par moment, même quand on a envie de s'accrocher, même quand on a envie de se dire ça ira, il y a des moments où la souffrance peut être plus forte. Et il y a des recours possibles. Il y a des coups de fil à passer. Et où là, on va vous tendre la main le temps que ça passe. Parce que j'entends qu'à un moment, vous vous sentiez tellement mal que vous aviez envisagé l'hospitalisation. Peut-être que le psychiatre n'a pas mesuré à ce moment-là à quel point vous alliez mal. Il se trouve qu'il ne s'était pas tout à fait trompé, puisque vous m'appelez ce soir pour en parler. Mais, bon, gardez-le dans un coin de votre tête. Et d'ici là, quand même, prenez soin de vous. Donnez-vous du temps pour aller mieux. Parce que ça ira mieux, François. Ça ira mieux à un moment donné. En attendant, il faut tenir et au besoin, demander de l'aide comme vous l'avez fait à nouveau. D'accord ?
Merci infiniment, Caroline. Merci de tout mon cœur.
Je vous embrasse.
Moi aussi, je vous embrasse.
Et prenez soin de vous.
Merci encore.
Faites attention à vous. Au revoir, François. Au revoir.
Au revoir, au revoir, Caroline.
RTL.
Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche.
Parlons-nous.